Eugène Mouton, la cassette bleue, dans un château, une galerie faisant atelier, éclairée par le large vitrage, avec une porte donnant sur une terrasse couverte de fleurs, bibliothèque, trophée d'armes et de chasse, tête de chevreuil, de loup, de renard, de cerf et de sanglier, le long des corniches. Table de travail sur laquelle sont entassées des brochures, des livres d'art et des bronzes. Celle de statuaire avec figures et chevaux esquissés. Un piano et un orgue. Et au beau milieu de la pièce, une montagne de joujoux dispersés. Plus loin, une corbeille à bourrage en forme de linde ornée de nœuds de ruban bleu pâle. Sur la chaise, un chapeau de jardin en paille brune avec votre verre. Sur les murs, le plan d'une propriété et la vue rue du château. À droite et à gauche de la cheminée, des portraits en pied d'un colonel en grand uniforme et d'un magistrat en robe. Au-dessus de la cheminée, une vieille épée de commandement et un cadre contenant des décorations, immense cheminée où brûle un feu clair. On est à l'arrière-saison. Au dehors, il fait un temps affreux. Le vent gronde par rafales, faisant tourbillonner les feuilles sèches et gémissant lugubrement par toutes les pointures des portes, tandis que la pluie fouette et fait grincer les carreaux du vitrage. Un homme d'âge moyen est allongé dans un grand fauteuil, les jambes étendues, les bras abandonnés sur ses genoux, la tête penchée et regardant tristement le feu qui brûle. Ainsi, voilà donc ce que c'est que la vie. Déjà vieux, déjà fini. Grand-père, moi, est-ce possible? Quoi? C'est donc tout? Et quand je vivrai 50 ans encore, jamais, jamais, pas un jour, pas une heure, mais une minute, il ne me sera permis de reprendre le sentiment de plus en plus modeste, de la plus fugitive des joies que la jeunesse m'a données. Pourtant, c'était si bon et je jouissais si doucement. Ô fraîcheur matinale, je ne vous ressentirai bien plus. Ô lumière argentée qui illuminait le monde de lueurs magiques. Te voilà donc éteinte, à mes yeux, ne te verront plus. Mais où est cette gaieté souriante? Qu'est devenu cet air de fête qui décorait comme un parfum, une parure toutes les choses de la vie? C'est affreux. C'est injuste, car enfin je me sens dans la plénitude de mes forces. Et jamais mon cœur n'a battu plus puissamment. Je suis vigoureux et sain comme un chêne. À pied ou à cheval, à la course ou à la nage, aucun jeune homme ne peut me suivre. J'ai plus de dents et de cheveux à moi tout seul que 10 de ces petits crevés qui tortillent en se tortillant, roucoulant comme des pigeons phtisiques. Et toutes les œillades sont pour eux. Tandis que, si une jeune femme me regarde, C'est avec une constance et un respect qu'elle me semble toujours à me demander ma bénédiction. Parbleu! Ah, si j'en tenais une, comme je lui rapprendrais, plus à me respecter, à me redouter, que diable! Car c'est une barbarie d'enterrer ainsi un homme tout vivant. La triste saison que l'automne, toute sèche, toute jaunie, tout tombe et meurt. Les souvenirs de l'année qui va finir prennent une teinte de regret et de deuil. Et l'hiver qui s'annonce donne à l'avenir un aspect sinistre. Il reste un moment perdu dans ses pensées. Au bout de quelques minutes, il lève la tête et regarde dans le vague comme pour chercher un souvenir. Puis tout à coup, il se lève, va à sa bibliothèque et en tire une petite cassette en bois peinte en bleu ciel avec des oiseaux et des fleurs grossièrement figurées sur rond blanc, jaune, rouge et noir. Pauvre vieille cassette, que tu viens de loin et que de choses tu pourrais me raconter. Depuis plus d'un siècle, peut-être, tu es dans ma famille. Et combien de fois as-tu vu les joujoux des nouveaux venus dans remplacer les souvenirs des vieillards et les reliques des morts? Moi-même, je suis venu comme les autres. Comme les autres, j'ai dispersé tous les trésors pour les remplacer par ces lettres et par ces fleurs séchées que d'autres disperseront à leur tour. C'est la loi. La vie n'est pas moins inexorable que la mort. Elle n'est plus profanée que la mort de consacrée. Il renverse sur une petite table le contenu de la cassette. Lettres, rubans fanés, fleurs séchées, cartes imprimées, portefeuille qui forme un monceau confus où s'élève un nuage de poussière et il regarde. Voilà donc ce qui reste de ma jeunesse, papier jauni par le temps, rose et violette, petits gants noirs, recettes de rubans rouges, boucle de cheveux, quel parfum vous répandiez autrefois, et avec quel transport je vous dévorais de mes baisers, et maintenant, j'ose à peine vous toucher, la poussière vous court, vos couleurs ont disparu, les plis et les froissements vous ont fait comme des rides, et l'odeur aigre du bois et du cuir moisi a remplacé votre douce senteur d'autrefois. Il prend une lettre au hasard et lit. Mon cher ami, je m'empresse de vous faire savoir, comme je vous avais promis, que je serai libre samedi, depuis midi jusqu'à 2 heures. Ainsi, si tu es libre, nous pourrons faire une petite promenade. Tout à toi. Lourd. Ah, quelle journée! Elle était si jolie que les passants, en la regardant dans la voiture, ouvraient de grands yeux stupéfaits. Nous allâmes au bois et, dans un bosquet, on nous servit des glaces. Avec quels éclats de rire nous changions de verre et de cuillère, et 100 fois et 1000 fois! Avec un baiser avant et un baiser après. Elle me frottait le nez avec son éventail, elle m'essuyait les lèvres avec son petit mouchoir de batiste parfumé. Elle avait 18 ans et moi 20. Au retour, elle sommeillait, sa tête roulant sur mon épaule et ses pieds mignons étendus sur la banquette, s'enivrant et m'enivrant d'amour. Il cherche une autre lettre de la même écriture. Et Abel a-t-il commencé, qu'il la froisse et la jette au feu, baisse la tête tristement en disant Oui, elle a fini bien mal. La voilà dans la boue. Oh, je n'ai plus pu la revoir. Il prend une autre lettre. Adeline. Oh, une déclassée à ce qu'elle prétendait. Beau corps, beaux cheveux roux, mais quel vilain caractère. Il prend dans le monceau de lettres un gant noir et une rosette de ruban rouge enveloppée dans un papier. Opéra, 17 février 1800. Ah, c'était mon rêve. Un débardeur, pressé dans mes bras, un de ces petits diables en chemise de batiste, en pantalon de soie, avec des cheveux frisés et une casquette de velours noir. Eh bien, j'ai cru l'avoir, mais je l'ai pressé sur mon cœur que des désagréments. Jamais contente, toujours triste et maussade, et s'amusant à manger des cerises et à en faire sauter les noyaux pendant que je lui parlais d'amour. Bon. Une, deux, trois, quatre, cinq, six lettres d'elle, et toujours la même chose. Tu sais comme je t'aime, donne-moi de l'argent. Ah, à la bonne heure! Mon ami, c'est en vain que je t'attends. Serais-tu malade? Je t'attends samedi, ton ami Adeline. Il y a 20 ans de cela, elle attend encore. Il défait un paquet de cartes d'étudiants réunies par une faveur bleue. Tiens, mes cartes d'étudiants! En effet, de ses courses au quartier latin, et par tous les temps, toujours à pied afin d'économiser les voitures, 3 quarts d'heure de chemin, et traverser des halles sur un lit de choux et de petits varots, était-ce assez ennuyeux, ses cours de droit, pour quelques hommes de valeur, quelques vieilles bêtes et une mauvaise bête parmi ses professeurs. Oh, j'ai presque oublié leur nom. Ah, voilà un homme qui, pendant 40 ans, s'est fait maudire par toute la jeunesse. Oh, j'ai eu un de ses coups de dent. Il m'a fait refuser un examen. Quel battement de cœur lorsqu'il m'a fallu rentrer chez moi et annoncer cela à ma mère. Il prend une autre lettre. Ah, Lucille, oh, une belle brune, oh, tendre, mais volage. Voyons un peu. Monsieur, nous allons m'expliquer avec vous de vive voix. Je préfère vous écrire. Vous n'ignorez pas dans quelle position pénible je puis être d'un moment à l'autre, ayant contracté une liaison avec vous. Mes parents, s'ils venaient à le savoir, maintenant, sans être exigeante, je désirais savoir si je puis compter sur vous pour acquitter certaines petites dettes. Il jette la lettre au feu. Relève fièrement la tête. Oui, à 20 ans, on paye. Mais à partir de 30 ans, je n'ai pas payé. De l'amour vendu, pas. Il tire un imprimé, c'est un almanach où certains jours sont soulignés. Des verbes gracieux expliquent que ces signes marquent une invitation pour ces jours-là. Les aimables, les adorables gens, Esprit, cœur, talent, manière, ils avaient tout, avec une grâce sans pareille. Ils marchaient dans la vie, non pas unis, mais embrassés. Et leur maison était un foyer d'affection. 20 familles amenaient leurs enfants et les voyaient grandir, partager les plaisirs les plus innocents et les plus aimables, se choisir, s'attacher peu à peu, et souvent pour la vie. Ils baissent la tête, morts tous deux. C'était l'idéal d'un bon ménage. Tout le monde travaillait dans cette maison. Et du matin au soir, on n'entendait que des éclats de rire. Il prend d'un débris de bouquets de violettes dont il reste que les tiges. Si je le savais. Bien non, non. Si j'avais su, j'aurais fait avec tes goûts. Non, la jeunesse ne sait pas ce que nous avons. Elle ne sait pas que même en amour, il y a un honneur à respecter. Je ne leur ferai pas ce qu'elle me faisait faire, cette épouse abominable du plus digne des hommes. Quelle chose incompréhensible! Quand je pense à un mari trompé, je ris, et quand je prononce le mot adultère, je frissonne comme à la vue d'une dartre vive. Il prend une lettre imprimée. Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que vous avez été admis au stage, etc. Ah ben voilà donc, avocat. Bon, ça n'a pas été sans peine. J'avais préparé ma thèse avec Francine. Les cheveux de Francine avaient 1,5 m de longueur. C'est quelle était cause qu'on m'avait refusé à ma thèse. Il prend une grande lettre à large cachet rouge. Mon Dieu, quelle espèce humaine est basse! Voilà le plus réactionnaire de mes amis qui m'écrivait une lettre honteuse pour me demander la protection auprès de nos amis devenus ministres à la faveur d'une révolution. 25 ans déjà, ambitieux. Il prend une lettre oblongue dont les abords sont chiffrés en forme de bordure de dentelle. Oh, voilà donc le papier coquet de ce temps-là. Rosalinde. Oh, c'est à ne pas en croire mes yeux. Enfin, au bal de Madame F. N'a-t-il pas été glorieux de fasciner mon cœur, d'obtenir même un doux regard de moi? Parole d'honneur, mon cher. Je t'ai aimé tout de bon pendant une valse et encore un peu. Je m'appropriais la romance de la folle et je chantais avec elle. Et pendant tout le bal, je ne pensais qu'à lui. Oh Léon, Léon, mon Léon. Belle, spirituelle, pleine de talent et de cœur, destinée à faire la femme la plus adorable. Et c'est à ce moment-là, dans tout son éclat de ses 18 ans, elle faisait et disait, pendant comme pour moi comme pour les autres, des folies de ce genre. Une enfant gâtée, disons-nous. Et je croyais que pour moi, ces folies ne finiraient jamais. À conséquence, elle s'est mariée. Et un jour, ah mon Dieu, le rouge m'en monte encore au front, on dit qu'elle a été pendue quelque part. Il prend une lettre bordée de noir. Mon cher ami, j'ai la douleur de vous annoncer que mon pauvre père, notre plus vieil ami, et celui qui nous écrivait, est mort aussi. Il prend une pièce de verre. Mort. Il prend une fleur sèche. Mort. Il prend un imprimé de quelques lignes. Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que monsieur le président de la cour d'assises vous a désigné pour défendre d'office le nommé Jacques Noël, accusé de vol domestique. Oh, retour de l'ingratitude maintenant. Oui, c'était mon début. J'avais attendri tout le monde jusqu'au ministère public. Et je fis acquitter mon client, un enfant de 16 ans. C'était lui sauver la vie que de lui ôter cette flétrissure. On m'entourait, on me félicitait. Je voulus me donner la joie d'aller moi-même faire ouvrir à l'enfant la porte de la conciergerie. Le père était sur le quai. Il me vit sortir avec son fils et il attendit que je fusse éloigné pour s'approcher de lui. L'ingrat, il prend un paquet de lettres et les feuillette d'un air découragé. Puis il promène ses regards sur les objets qui l'entourent. Et moi, que suis-je? Et balayant d'un revers de la main le morceau qui remplissait la cassette, il le pousse du pied dans le foyer et le regarde brûler en sanglotant. On entend derrière la porte les cris d'un petit enfant. On frappe, une nourrice entre, tenant sur ses bras un petit enfant de 10 ans, 2 ans. Monsieur, je ne peux pas venir à bout de la petite. Enfin, c'est une rage. Quoi, elle ne veut pas dormir sans avoir bissé son grand-père. La nourrice pose l'enfant sur les genoux de son grand-père, qui l'embrasse de toutes ses forces et lui prend dans les oreilles à pleine main. Et au même moment, il se fait un grand bruit de pas et de rire et de cris de joie dans l'escalier. La porte s'ouvre. Une jeune femme, en costume de voyage, suivie d'une autre dame encore belle et gracieuse, et d'un officier de dragon en petite tenue, entre et vient se jeter au cou de son père. Celui-ci la prend sur un de ses genoux et l'attire sur l'autre genou l'autre dame. L'officier vient par derrière et baise respectueusement le front de son beau-père. La petite fille, recueillant de ses petits doigts une larme de son grand-père, et la lui montrant, « Oh, grand-père, pas sage grand-père, oh, papa, pleurez !» Le grand-père, riant à chaudes larmes, « Oh, bébé, mais non, grand-papa fera plus !»